rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question, j'allais dire du bienheureux, mais il n'est pas encore béatifié, Didas Pelletier. Il avait été baptisé Claude Pelletier, et c'est son nom de religion, Didas. Il est entré chez les Récollets. C'est un Québécois du 17e siècle. C'est le 300e anniversaire de son décès aujourd'hui. Et il est mort en odeur de sainteté à Trois-Rivières. C'est même écrit sur une plaque qui a été érigée à ce moment-là. Et j'ai reçu par le courrier venu de Sorel, de la part de M. Samuel Étier, une lettre au mois de novembre qui m'a fait changer mon horaire. Je devais vous parler de quelqu'un d'autre aujourd'hui, mais comme il m'écrit dans sa lettre, monsieur, le 21 février 1999 marquera le 300e anniversaire de la naissance au ciel à l'infirmerie des Ursulines de Trois-Rivières du frère Didas Récollet. Le 21 février 1699, ajoute-t-il, était un samedi, journée consacrée à Marie, et c'était le désir du frère Didas de quitter ce monde en ce jour marial. Lui qui avait une très grande dévotion à la Reine des Anges, comme il l'appelait. Alors, il m'envoie par la présente quelques notes, etc. Il me signale que le bon père Frédéric, dont je vous ai parlé le 19 novembre dernier, le bon père Frédéric que vous connaissez tous, qui a été béatifié, eh bien, qui a tant fait, dit-il, de son vivant pour faire connaître le frère Didas, il y a un siècle environ, un peu plus, serait sans doute heureux qu'on le prie d'intercéder à l'occasion de ce 300e centenaire pour que notre mère, la Sainte Église, reconnaisse enfin la sainteté du frère Didas, né ici au Québec. Merci de votre aimable attention, Samuel Étier. Eh bien, je remercie cet auditeur de m'avoir envoyé de la documentation. J'ai fait des recherches aussi et j'ai trouvé qu'enfin, le frère Didas Pelletier avait été baptisé, comme je vous ai dit, Claude, qu'il était frère récollet, franciscain, si vous voulez, et maître charpentier, oui. Et la cause de béatification a été introduite dès 1713, quoi, 14 ans après sa mort. Il est né à Sainte-Anne-de-Beaupré, près de Québec, comme vous savez, le 28 juin 1657. Son père s'appelait Georges Pelletier. Je suis sûr qu'il y a quelques Georges Pelletier, peut-être, qui m'écoutent, n'est-ce pas? Et Georges Pelletier a été baptisé en 1624 à Dieppe, en France. Georges Pelletier est arrivé en Nouvelle-France en 1655, selon les dernières recherches, avec sa femme, qu'il avait épousée là-bas, Catherine Vanier. Claude Pelletier, le futur frère Didas, s'est confirmé en 1666, donc, disons, à 9 ans. 8 ans même, par Monseigneur de Laval lui-même, le bienheureux Monseigneur de Laval. Ça fait beaucoup de bienheureux, comme vous voyez. Et il entre en 1668, à 21 ans, prétend-on, dans une école d'art et métier de Saint-Joachim, mais c'est pas sûr, il paraît que ça n'a jamais existé. Et c'est ce que dit le père Bacon, supérieur des aux gardiens, si vous voulez, des franciscains de Rosemont, qui est un spécialiste de cette histoire. Et de toute façon, il a appris sur le champ son métier de charpentier pour devenir vraiment maître charpentier. Il était brillant et intelligent, Claude Pelletier. Alors, il a travaillé d'abord à la construction de la deuxième église de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui a été commencée en 1676. Et il est probable que son penchant à la vie religieuse, s'en est trouvé accru, le fait de construire une église si jeune, n'est-ce pas? Il n'était pas encore entré chez les frères. Et les églises étaient évidemment ce qu'il y avait de plus important qu'on pouvait faire, qu'on pouvait construire. Et puis, celle-là en particulier était très importante parce qu'elle c'était un lieu de pèlerinage très fréquenté. Ça a dû le toucher. Il y avait une petite chapelle de marins qui avait été élevée en 1658, hein? Des marins reconnaissants d'avoir pu traverser cet océan abominable sans se noyer ou sans mourir de quelque maladie. Et l'on parlait des miracles qui s'y faisaient aussi. Et l'érection de la première église avait commencé en 1660, puis la bienheureuse Mère Marie de l'Incarnation, encore une bienheureuse, écrivait en 1665, voici son texte, « À 7 lieues d'ici, il y a un bourg appelé le Petit Cap, où il y a une église de Sainte-Anne, dans laquelle notre Seigneur fait de grandes merveilles en faveur de cette Sainte Mère de la Très Sainte Vierge Marie, Sainte-Anne. On y voit marcher les paralytiques, les aveugles recevoir la vue, et les malades de quelque maladie que ce soit recevoir la santé. » C'est ce que déclare Marie de l'Incarnation. L'église, plus spacieuse, qui a remplacé celle de 1660, était en pierre. On attribue le plan à un curé, François Fillon, qui est mort en 1679 à 50 ans. Mais il est plus probable que Monseigneur de Laval et Claude Baillif en ont été les inspirateurs. Quant au jeune Claude Pelletier, il a dû s'occuper du toit, du clocher et d'autres travaux de charpente. 2 ans plus tard, en 1678, Claude, à 20 ans, demande à entrer chez les Récollets. Il est admis l'année suivante, à 21 ans, comme je vous ai dit. Il prend, en 1680, le nom du frère Didas. Je trouve ça presque triste de quitter ce beau nom de Claude pour le nom de Didas, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. À partir de 1682, il accompagne pendant 6 ans, oui, 6 bonnes années, le fameux père Joseph Denis, qui était un homme admirable. Lui aussi, c'est un Canadien, premier Canadien à être entré chez les Récollets. Et le frère Didas est le premier frère convert, ou frère lait, ou frère, si vous voulez, tout simplement, comme on dit aujourd'hui, à être entré chez les Récollets, qui sont, comme vous savez, des franciscains, en fait. Hein? Et donc, il accompagne pendant 6 ans le bon père Joseph Denis, qui a reçu sa formation en France, lui, où il a été ordonné prêtre, même s'il était canadien. Et il l'accompagne donc dans les missions très longues, très éloignées les unes des autres, que les Récollets ont établi. Il y en a une à l'île Bonaventure, près de Percé. Il y en a à Plaisance ou Placentia, à Terre-Neuve. C'est incroyable, les voyages. Hein? Puis à Ville-Marie, ici à Montréal. Et enfin à Trois-Rivières, puis ils en ont fait ailleurs. Et le frère Didas, qui travaille de peine et de misère, meurt finalement à Trois-Rivières. Je vous parlerai de ça plus tard. Le 21 février 1699, il y a exactement 300 ans aujourd'hui, c'est le 3e centenaire. J'espère que les franciscains célèbrent ça. Il est mort d'un refroidissement contracté pendant qu'il y travaillait à l'église des Récollets à Trois-Rivières. Puis il est inhumé, justement, à Trois-Rivières, dans la crypte de la chapelle du couvent des Récollets, rue Notre-Dame. Mais cette église a été enlevée aux catholiques par les protestants. Elle est maintenant une église protestante. Je vous ai dit que le bon père Frédéric avait travaillé pour ce saint frère Didas. Et si on voulait résumer, nous dit Brigitte Trahan dans un article paru dans le Nouvelliste il y a un peu moins de 10 ans, si on voulait résumer en quelques mots la biographie du bon père Frédéric, on pourrait dire de lui qu'il a été un saint qui travaillait pour un autre saint, parce qu'en effet, c'est le bon frère Didas qui a illuminé la voie de celui qui a été béatifié le 25 septembre 1988, le père Frédéric. Depuis le jour où le père Frédéric, ou j'aimerais mieux dire le frère Frédéric, au fond, tous les franciscains sont des frères, ce sont des frères mineurs. Hein, on les appelle des frères mineurs, puis on les appelle pères tout à coup, je ne comprends plus rien des fois. Vous savez que les dominicains en France ont tous pris le nom de frères, hein? Même les grands théologiens, les prêtres, etc. Depuis le jour où, disons, le frère Frédéric Janson, récollet et français d'origine, prit conscience de l'existence du frère Didas et de l'influence qu'avait le frère Didas sur ses frères au XVIIe siècle, une grande partie de sa vie a alors été consacrée à reconstruire sa biographie, qui n'existait pour ainsi dire pas, puis à la publier, puis à suivre les traces de ce personnage important. Parce que c'est un personnage important, ce frère. On a des récits, des miracles qui sont survenus à sa tombe après sa mort, c'est absolument phénoménal, y compris l'évêque de Québec, qui a été miraculé, dit-on, et qui l'affirme lui-même. C'est à Trois-Rivières que le père Frédéric a entendu parler du frère Didas Pelletier pour la première fois. C'est au cours des 28 années qu'il a passé à Trois-Rivières, je vous avais tout raconté ça au mois de novembre, qu'il fouillera, ça je vous en avais moins parlé, il a fouillé plus profondément dans le passé du frère Didas, et ce, à cause de ce que nous appelons aujourd'hui l'église anglicane Saint-James, sur la rue des Ursulines dans le vieux Trois-Rivières. Cette église qui était, jusqu'à la conquête anglaise, celle des Récollets. C'est un beau petit lieu de culte qui était à l'origine édifié en bois par le frère Didas. Quelques 40 ans plus tard, l'église était tellement abîmée qu'on a dû la reconstruire en pierre. Cette fois, grâce à la charité des habitants de Trois-Rivières, et puis, elle est demeurée la propriété des Récollets jusqu'après la conquête, jusqu'en 1777, date où les Anglais en ont pris possession de force pour en faire un hôpital militaire. Et c'est à cette époque que le roi George IV l'a cédée à l'Église anglicane. D'autres disent que ce sont des presbytériens qui l'occupent. Je ne sais plus quelles sont mes sources les plus sûres. Il faudrait que je vérifie à Trois-Rivières même. Lors de son arrivée au Canada, en 1888, 111 ans après cette perte de l'église des Récollets, le frère Frédéric Johnson a mis en œuvre pour retrouver les reliques de celui qu'il vénérait tant, ce frère Didas. Et persuadé que le frère Didas était enterré dans l'église anglicane, il a consacré plusieurs années à tenter de restituer aux Récollets, aux franciscains, ce bien de famille religieuse qui représentait quoi, la petite église et, où il rêvait de restaurer l'ordre franciscain au Canada. En 1890, il entretient une correspondance serrée avec le premier ministre du Québec, l'honorable Honoré Mercier, dans l'espérance de revoir cette chapelle qu'il désire, cette église. Et le bon honorable Honoré Mercier lui répond, je le cite, « Le gouverneur de la province ne peut restituer ce qu'il ne possède pas. » Alors, le bienheureux père Frédéric, comme on l'appelle, dit en secret à un de ses confrères, de ses frères, « Le premier ministre m'a envoyé promener. » Bien qu'en 1889, le ministre, disons, anglican ou protestant, l'autorise à faire des fouilles dans l'église, le bon père Frédéric n'a jamais réalisé son rêve. L'église ne fut jamais rendue aux Récollets. Mais le corps du frère Didas fut retrouvé et exhumé. Et du terrain des Récollets, à l'angle des rues Notre-Dame et Saint-François-Xavier, presque en face du monastère des Ursulines, sa tête a été envoyée au monastère des Récollets à Québec, et qui devait malheureusement être dévoré par les flammes plus tard. Et selon les dernières données de l'histoire de Trois-Rivières, les reliques du frère Didas seraient aujourd'hui situées sous la rue des Ursulines, nous dit cet auteur. Alors c'est donc en travaillant à reconstruire la vie de son successeur, que le père Frédéric s'est fait connaître, son énergie, sa passion envers le frère Didas Pelletier était telle qu'il a distribué en quelques semaines, écoutez bien ça, à peine, plus de 20 000 portraits de lui. C'était un portrait qu'on avait retrouvé. Les Ursulines de Trois-Rivières ont largement contribué à cette publicité parce que leur communauté vénérait ce frère, et c'est en grande partie à cause de leur lien étroit avec les Récollets qui vivaient dans la même rue qu'elle. Et il disait, c'est sœur Germaine Blais, qui est archiviste des Ursulines, qui déclare, « Quand notre monastère a brûlé, les Récollets nous ont cédé leur monastère. Ils sont allés vivre ailleurs temporairement, avec grande générosité. Aussi, notre communauté a-t-elle entretenu très longtemps une tradition de vénération du frère Didas. Les sœurs ont fait tirer des copies de son portrait, les ont distribuées à profusion. Et entre-temps, bien, le frère Frédéric, là, a travaillé avec acharnement sur une biographie La première, là, du saint, c'est une tâche difficile, puisque la seule source d'information disponible sur la vie du frère Didas Pelletier était les actes du très dévot frère Didas Récollet, mort en odeur de sainteté en 1699, qu'il a recopié en entier, puis il s'agit d'un manuscrit de 34 pages. Je vous en extrairai des portions tout à l'heure pour vous faire connaître davantage ce bon frère Didas Pelletier qui, dont la cause sera introduite à Rome. Donc, pour compléter les données que le bienheureux père Frédéric a été béatifié, comme vous savez, en septembre 1988, mais pour compléter les données qu'il a pour faire la vie du frère Didas Pelletier, eh bien, il consulte des ouvrages sur l'histoire du Canada. Puis il recueille aussi un grand nombre de faveurs obtenues par l'intercession du frère Didas. J'en ai parlé, c'est énorme. Dont 500 témoignages mentionnés dans la revue Tiers-Ordre. Toute cette sainteté qu'il découvre dans son frère qui a vécu des siècles avant lui, ça influence beaucoup le bon père Frédéric. Puis on commence à lui attribuer à lui aussi de nombreuses guérisons. Il a été, vous savez, vous en souvenez, 12 ans missionnaire en Terre Sainte, hein, le bon père Frédéric. Puis il s'occupe activement de bonnes œuvres, et surtout dans le domaine agricole. Puis en 1888, il se rend au Cap de la Madeleine. Puis on dit de lui qu'il a été un pionnier de la dévotion mariale. C'est un thaumaturge, c'est-à-dire quelqu'un qui obtenait de Dieu des guérisons, des miracles, quoi. Il a été aussi l'un des trois témoins, que je vous avais raconté ça, du miracle des yeux, où la statue de la Sainte Vierge aurait ouvert les yeux. Le bienheureux père Frédéric est décédé en mois d'août 1916, à l'âge de 77 ans, presque 78. Son corps a été alors déposé en crypte. Et puis, il a été la première personne à être béatifié dans le diocèse de Trois-Rivières. Pour ce qui est des Récollets, on peut se poser des questions. Je vous parle de Récollets, Récollets, Récollets. Qu'est-ce que c'est que ces Récollets? Eh bien, les Récollets ont été les premiers missionnaires de la Nouvelle-France. Les premiers, avant les Jésuites. Ils ont d'ailleurs rédigé le premier dictionnaire de la langue huronne. Mais ils ont été frappés d'interdits à la conquête par les Anglais. Et leurs institutions ont été rasées. Et on a même perdu la trace de leurs archives. Le père René Bacon, le supérieur ou gardien de la maison des franciscains de Rosemont, l'ordre religieux autorisé un siècle plus tard, pense que les archives des Récollets ont été remises aux Sulpiciens au moment de la démolition du couvent des Récollets à l'ouest du Vieux-Montréal. Après la mort du dernier Récollet, et à son avis, cela reste dans la masse des archives non classées au séminaire de Saint-Sulpice. Hein? J'ai pris ça dans Le Devoir, c'est paru il y a quelques jours à peine, quelques mois, je devrais dire, le 30 décembre 1998. C'est un article de Jean Chartier qui est extrêmement intéressant sur que reste-t-il des Récollets. Vous avez dû lire ça dans Le Devoir. C'est paru un mercredi. Et Jean Chartier raconte que la mort du père Louis de Mers en 1813, donc 50 ans après la conquête, signifie l'effondrement du monde des Récollets pour cause d'interdiction de recrutement. Les Anglais ne voulaient pas qu'ils se recrutent. Et c'est la Scotland Church qui a transformé l'église des Récollets en St. Paul's Church, le couvent et le cloître étant vite démolis par les Anglais, puis remplacés par la percée de la rue Sainte-Hélène, de la rue Lemoine et de la rue des Récollets, par quelqu'un qu'on appelle l'honorable Grant, selon le plan d'époque récupéré aux archives des franciscains. Depuis son retour à Montréal vers la fin du 19e siècle, ce grand ordre religieux des franciscains, renommé à travers le monde entier, fils de Saint-François d'Assise, s'est établi boulevard Rosemont, dans l'est de Montréal. C'est la campagne à l'époque. C'est le jardin de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de nos jours. Et au moment de la conquête, les Récollets disposaient d'un terrain de 4 arpents et demi à l'extrémité sud-ouest de la rue Notre-Dame, On disait que c'était le plus beau jardin de Montréal, selon le gouverneur Frontenac lui-même. Et c'est de la rue Saint-Pierre à la rue Augustine, avant qu'on la renomme rue McGill, et de la rue Saint-Paul à Notre-Dame. C'était quelque chose. Hein. Le cœur de la propriété se situait à proximité de l'actuelle rue des Récollets, mais tout ce qui reste de la présence des Récollets dans Vieux-Montréal, c'est le nom de la rue, c'est tout. Le couvent a été démoli en 1818, avec le cloître et le jardin, puis l'église, même l'église en 1867. Pourquoi? Bien pour des entrepôts de marchands anglais. Rien ne rappelle leur présence, pas davantage que celle des Jésuites dans le Vieux-Montréal. C'est triste quand on pense à ça. On n'y pense pas assez parfois. Et puis, notre cœur vibre pas au chagrin des franciscains puis au chagrin des jésuites. Les Récollets se réclamaient de Saint-François d'Assise et vivaient dans la pauvreté, comme on sait. Et le frère René Bacon, leur gardien aujourd'hui à Rosemont, signale que les Récollets étaient établis à Brouage, le village de Champlain, ce qui explique leur venue si tôt en Nouvelle-France. Ils sont arrivés avant les jésuites. Hein. Quatre Récollets sont arrivés à Québec dès 1615. Québec a été fondé, je vous le rappelle, en 1608. Donc, ils sont arrivés 10 ans avant les jésuites. Ils ont bâti un couvent près de Québec dès 1620, qu'ils ont dédié au grand vicaire Charles de Bois. Et ce qui donne, d'ailleurs, le nom de la rivière Saint-Charles, passant derrière le couvent. C'est de là que ça vient, la rivière Saint-Charles. Et le couvent de Notre-Dame-des-Anges, des franciscains, se situait sur un domaine de 200 arpents qui appartenait aux Récollets, là, par décision du roi de France. Puis à l'arrivée des Récollets, le père Le Caron est allé en Huronie, à Caragua, de nos jours Thunder Bay. Et le père Nicolas Vielle et Gabriel Sagard, eh bien, les ont rejoints. Mais le 25 juin 1625, je vous rappelle ça, en 1625, le père Vielle, Nicolas Vielle, accompagné du jeune Ahuntsic. Ça vous dit quelque chose, Ahuntsic? C'est là où est le métro Henri Bourassa. Eh bien, le père Vielle s'est noyé avec le jeune Ahuntsic au rapide de la rivière des Prairies, au lieu qu'on a nommé le Saut aux Récollets. C'est de là que ça vient, le nom du Saut aux Récollets. Je raconte ça parce que beaucoup de jeunes qui ignorent ça, et c'est intéressant. Hein? Il s'agissait du premier martyr, le père Nicolas Vielle, le premier martyr en Nouvelle-France, avant les Jésuites, dit le père Bacon. Après que les frères Kirk, les Anglais, eurent mis le feu au poste de Cap Tourmente en 1628, et ils ont délogé Champlain de Québec, les Récollets ont dû quitter la Nouvelle-France. Une grande partie de nos ancêtres sont partis, hein, et ne furent autorisés à revenir qu'au bout de 40 ans en raison de démêler avec les Jésuites. Ils se concentrèrent entre-temps en Acadie, qui était un peu comme un autre pays. Alors, ce franciscain René Bacon de Rosemont, là, a publié, j'ai vu ça, un gros volume en 1995. Ça m'est tombé dans les mains à un moment donné. Le dictionnaire biographique des Récollets chez Bellarmine. J'aimerais bien en avoir une copie. Il reprend les 14 notices du dictionnaire biographique du Canada consacré à la période de 1615-1628. Puis il évoque les 25 Récollets que le grand historien Marcel Trudel a appelé les robes grises. Car ils étaient en gris dans ce temps-là. Hein? Et ils réexaminent toute la question. Et finalement, bien en 1670, les Récollets sont revenus, envoyés par Louis XIV pour faire contrepoids à l'austérité des Jésuites, prétend le père Bacon. En 1692, donc quelques années avant la mort du frère Didas Pelletier, dont je vais vous parler dans la deuxième demi-heure, eh bien les Récollets obtiennent des Sulpiciens un terrain à l'ouest de Montréal, à l'intérieur de la palissade Ampieux. Puis leur protecteur, le gouverneur Frontenac, qui admirait tellement leur jardin, se félicite justement de ce jardin à l'arrière de leur église, puis leur couvent avec sa sortie principale à la porte des Récollets, au nord-ouest du Vieux-Montréal. Tout est splendide. Mais Monseigneur de Laval s'était opposé à ce que les Récollets s'établissent à Trois-Rivières, à Cataraqui et aux îles Percées. Et l'archevêque de Québec les appelle même les frères insoumis. Les frères insoumis. C'est ce que rapporte le père Bacon dans une brochure à ce sujet, Récollets et observants en Nouvelle-France et au Canada. Aujourd'hui, c'est le 300e anniversaire du décès du Saint-Frère Didas Pelletier. Du moins, il est mort en odeur de sainteté. Ceux qui voudront savoir beaucoup sur, ou le plus possible, sur ce bon frère, Didas Pelletier, Récollet, mort en 1699, peuvent lire dans le bulletin des recherches historiques de 1911. Une étude historique et critique sur les actes du frère Didas Pelletier. Faut-il avoir le bulletin des recherches historiques dans sa bibliothèque? Ou aller le consulter dans une grande bibliothèque? C'est écrit par le père Odoric Marie Jouve, franciscain. J'ai dans ma bibliothèque, paru en 1910, le frère Didas Pelletier Récollet par le père Odoric Marie Jouve, publié à Québec au couvent des Saint-Stigmates, 1910, et c'est 350 pages. C'est extrêmement intéressant. Il raconte en effet beaucoup de miracles, car on connaissait depuis longtemps le genre de vie de ce frère Récollet. Le père Denis, qui l'avait accompagné dans les périples fantastiques jusqu'à Terre-Neuve pour construire des églises qui ont été détruites par les Anglais venus du Sud, tout a été détruit. Eh bien, peu après les avoir construits d'ailleurs, eh bien le père Denis était convaincu de la sainteté de ce frère convert. Et grâce à l'aide de Monseigneur de Saint-Vallier, on a commencé son procès de béatification, comme je vous ai signalé au début de l'émission, puis on trouve aux archives du séminaire de Québec une copie, faite entre les années 1720 à 1744, du récit du père Denis, des quelques 22 miracles accomplis par Dieu lors de la vénération des reliques du frère Didas. On trouve d'autres lettres qui se rapportent à lui. Mais cependant, le procès n'a pas été poursuivi. Le frère Didas a été complètement oublié. C'est quand on a découvert, à la fin du siècle dernier, comme je vous ai dit, une gravure contemporaine intitulée « Le vrai portrait du très religieux frère Didas, mort en odeur de sainteté, 21 février 1699, dont l'un est à Québec, puis l'autre est à la Bibliothèque nationale de Paris. » Et puis, le bon père Frédéric, comme je vous ai tout raconté ça tout à l'heure, a beaucoup travaillé pour le faire connaître, chercher ses reliques. Et depuis, on n'a pas cessé de s'intéresser à sa cause. Mais savez-vous que de son œuvre de charpentier, il ne reste rien? Pas plus que les documents, dans les documents, là, que dans les édifices qui existent aujourd'hui. Il ne reste rien. Donc, le 21 février 1699 à Trois-Rivières, dans ce petit hôpital, cette infirmerie des Ursulines, tout près du couvent des Récollets, meurt en odeur de sainteté le frère Didas Pelletier. C'est un franciscain récollet de chez nous, je vous le répète. C'est originaire de Saint-Anne-de-Beaupré, où il est né, puis il a grandi. Le souvenir du frère Didas Pelletier aurait pu, après quelques générations, se perdre dans l'anonymat ou sombrer dans l'oubli, comme ce serait le cas de la plupart des religieux, et la très grande majorité de nous, les laïcs. Je sais que je serai enseveli un matin, et à 5 heures, on ne parlera plus. C'est fini. Nous sommes presque rien. Presque rien. Mais nous sommes dans les bras de Dieu. Dieu nous aime, si nous l'aimons, si nous lui sommes fidèles, si nous aimons Jésus vraiment. Et ce qui fait la grandeur du chrétien, l'amour que Dieu lui porte, l'amour auquel il répond. Et souvent, ceux qui ne sont pas chrétiens seront très bien reçus. Jésus le dit dans l'Évangile, Saint Matthieu 25. Oui, les gens s'étonnent, les incroyants s'étonnent, mais quand nous avons fait quelque chose pour toi, Seigneur, et il dit, chaque fois que vous avez fait quelque chose pour un plus petit, alors même les incroyants peuvent avoir beaucoup de charité. Le souvenir du frère Didas Pelletier, donc, aurait pu sombrer dans l'oubli. Et en réalité, c'est le contraire. Peu après la mort, donc, du frère Didas, est arrivé une série d'événements autour de son tombeau qui ont laissé dans l'histoire des traces. Grâce en particulier aux études fouillées du franciscain Odoric Jouve, dont je vous ai parlé, et ce livre que j'ai ici en main, là, qui a tant fait pour faire connaître les Récollets, surtout à Trois-Rivières, eh bien, la vie de celui qu'on a appelé dès le début le très dévot frère Didas, et depuis longtemps connu dans ses lignes essentielles. Ainsi que la réputation de sainteté et les miracles qui ont illustré sa mémoire au cours des 20 années qui ont suivi son décès. C'est seulement autour de 1890, comme j'ai dit, que grâce à un concours de circonstances, là, la figure passablement oubliée de ce grand Récollet a refait surface, et dès lors, la piété populaire, comme nous le signale le père Bacon, stimulée par le père Frédéric, le bienheureux père Frédéric en particulier, accorde au frère Didas Pelletier une vénération grandissante, puis à partir du milieu des années 1920, la dévotion au frère Didas commence cependant à se faire plus discrète. Bien que les milieux franciscains puis les paroissiens de ce temps de Beaupré, aidés en cela par les rédemptoristes, qui publient une excellente revue, abonnez-vous à la petite revue Sainte-Anne, excellente petite revue publiée, ça coûte presque rien par les rédemptoristes. Mais les franciscains ont su maintenir vivant le souvenir de ce saint québécois, malheureusement trop ignoré. En 1678, donc à l'âge de 21 ans, je vous le répète, Claude Pelletier a décidé d'entrer chez Frère Mineur Récollet au couvent Notre-Dame-des-Anges à Québec. Au noviciat, ouvert l'année précédente, Claude Pelletier a revêtu l'habit franciscain et puis a pris le nom de Didas. Je vous dirai pourquoi. C'est que ce nom de Didas est illustré dans l'ordre franciscain par les vertus de Saint Didas d'Alcala. Je vous parlerai peut-être un jour de Didas d'Alcala. Il est ainsi le premier convert canadien à entrer chez les Récollets. Le père Jouve écrit, « Pendant l'année de noviciat du frère Didas, on construisit la sacristie de l'église, n'est-ce pas, par-dessus le clocher des religieux, etc., et ces constructions auxquelles le frère Didas a pris part, sans nul doute, comme charpentier-menuisier, existent encore aussi bien que l'église, elles font partie des bâtiments de l'hôpital général de Québec. Alors, espérons que ça existe encore vraiment, puisque dans d'autres textes, on nous dit qu'il ne reste rien. » Le 5 février 1680, le frère Didas prononce ses vœux de religion et le père Jouve écrit qu'il demeurait encore 3 ou 4 ans à Notre-Dame-des-Anges. Le père Joseph Denis, qui a été le premier biographe autorisé, si on peut dire, son compagnon, son meilleur ami au fond, nous raconte que ce Récollet, le frère Didas Pelletier, qui lui a été assigné pour le seconder à tous les postes de mission, eh bien, il note dans sa lettre au procureur des Récollets à Rome que le 20 mai 1619, là, qu'il a été le confesseur du frère Didas l'espace de 14 ans, ayant travaillé ensemble à tous nos établissements du Canada. Et il a jamais trouvé en lui quelque faute qui ait pu lui était marquante. À l'été 1696, le père Joseph Denis, d'ailleurs, a appris qu'on venait de lui confier la charge de gardien ou de supérieur, si vous voulez, du couvent Saint-Antoine de Québec. Et celle plus importante encore, de commissaire provincial de tous les Récollets de la Nouvelle-France. À ce titre, il invite le frère Didas Pelletier à se joindre à la communauté de Trois-Rivières. Et c'est comme ça que 3 ans avant sa mort, on peut dire, arriva aux Trois-Rivières, vers la fin de 1696, c'est même 2 ans avant sa mort presque, un peu plus. Il peut être arrivé au commencement même de 1697, dit le texte. Puis, depuis l'automne 1693, nous savons, par Monseigneur de Saint-Vallier, que les Récollets ont à Trois-Rivières, c'est le texte de Monseigneur de Saint-Vallier, ça a une église et une maison où on peut vivre régulièrement. L'église dont parle ici l'évêque ne peut s'entendre que d'une chapelle intérieure provisoire. Car l'église conventuelle fut commencée par le frère Didas. Et c'est à n'en pas douter pour la construire qu'il fut envoyé aux Trois-Rivières. Son habileté, son expérience en ce genre de travail l'avait désigné pour cela et puis il a travaillé avec énormément d'ardeur. Durant l'hiver de 1698 à 99, l'année de sa mort, il prépare le bois de charpente qui va servir au printemps là, à parfaire l'édifice. Mais il sera plus là. Et c'est dans ces durs travaux, exécutés durant ces hivers qu'on connaît, hein, ici au Canada, que le bon frère Didas a contracté la maladie mortelle, qu'elle est le ravir à ses frères. Hein? C'est ce que raconte le père Jouve. Le père Denis, lui, Ton premier biographe précise qu'effectivement il est mort d'une pleurésie qu'il a attrapée en travaillant au bois de la charpente de notre église de la ville de Trois-Rivières, dit-il. Et puis, il faut dire qu'il avait auparavant séjourné quelque temps dans un petit hôpital que tenaient les Ursulines près du couvent des Récollets. Alors le 21 février 1699, un samedi, le frère Didas demande à recevoir les derniers sacrements. Puis, le chirurgien s'oppose à ça, il trouve pas qu'il en avait besoin. Mais lui, le frère Didas, il dit « c'est mon dernier jour ». Puis il expire vers les 6 heures du soir, en répondant lui-même aux prières de l'agonie. À son décès, le frère Didas avait 41 ans. Il avait été franciscain au Récollet, 20 ans. À son chevet se tenait son père, Georges Pelletier, venu de Québec. Quand l'église fut terminée, au plus tard en 1703, la dépouille mortelle du saint frère Didas fut exhumée et déposée sous le maître-autel avec cette inscription. Si gît le corps du vénérable frère Didas Pelletier, mort en odeur de sainteté. Au cours de cette seconde inhumation, la tête, le chef, le crâne du Saint-Frère a été réservé puis porté à Québec, déposé dans une châsse en forme de pyramide que l'on a placée dans la sacristie des Récollets de cette ville. Sur la vie et la mort du frère Didas Pelletier, on serait bien davantage si on avait reçu un plus long détail de toutes les actions de sa vie que le père Joseph Denis se proposait de composer en mai 1719. C'est lui qui parle de ça, un plus long détail de toutes les actions de sa vie. Et malgré les efforts du père Doric Jouve, son historien, qu'on retrouve dans le bulletin des recherches historiques de 1911, et Germain Desnoyers, ainsi que du frère Réal Prévost, qui s'occupe de sa béatification actuellement. Si vous avez un miracle obtenu par le frère Didas Pelletier, téléphonez au frère Réal Prévost au couvent de Rosemont. Eh bien, cet écrit, s'il existe, demeure à ce jour introuvable, le travail qui aurait été fait au début du 18e siècle. Le frère Didas Pelletier écrit, le père Joseph Denis a conservé toute sa vie, non seulement la première ferveur de son noviciat, et c'était son confesseur, mais encore la première grâce de son baptême, puisque m'ayant fait 2 confessions générales, je n'y ai pas remarqué qu'il ait jamais offensé Dieu mortellement. Par conséquent, toute sa vie vierge, quoiqu'au milieu des assauts du diable et de la chair, son obéissance était parfaite, dans les petites choses comme dans les plus grandes, et sa pauvreté si extrême qu'il n'a jamais voulu avoir seulement une tunicelle pour changer dans les plus grandes chaleurs de l'été, où il était continuellement exposé, travaillant à la charpente de toutes les églises et maisons de nos établissements, non plus que de s'exempter du jeûne dans les plus grands et pénibles travaux, et de se lever à minuit pour chanter les matines. Et lorsque je lui présentais, continue le père Denis, qu'il ne pouvait pas vivre longtemps en donnant aucune relâche à la nature, il me priait non seulement comme son confesseur, mais comme étant presque toujours son supérieur, de le laisser faire, aimant mieux mourir 10 ans plus tôt et avoir la consolation d'avoir observé sa règle que de vivre 10 ans plus tard et avoir à se reprocher de s'être épargné, ajoutant que la religion s'était bien passée de lui avant qu'il y fût et qu'elle s'en passerait encore bien après sa mort, et que le travail qui faisait le plus d'honneur à son état était de se sanctifier soi-même. Le père Joseph Denis, en parlant du frère Didas Pelletier, a bien rapporté que le frère Didas Pelletier considérait que le travail qui faisait le plus d'honneur à son état était de se sanctifier soi-même. Et le père Joseph Denis ajoute, son humilité était si profonde qu'il estimait toujours, il s'estimait toujours serviteur inutile. Nous sommes si inutiles que on peut disparaître, mais être remplacé en quelques heures. Nous n'avons aucune importance au fond. Son humilité était si profonde qu'il s'estimait toujours serviteur inutile, comme il a raison. Quoi qu'il fût doué, dit le père Denis, de beaucoup d'esprit et de pénétration pour tous les arts, il portait un si grand respect aux prêtres et à tous qui pouvaient les regarder qu'il voulait céder le pas même aux novices clercs, le dire aux séminaristes si vous voulez, ou aux novices qui se préparaient à devenir prêtres. Les fêtes et dimanches, il servait autant de messes qu'il pouvait. Dans ce temps-là, les messes étaient individuelles. Il n'y avait pas de concélébration. Il avait une grande et solide dévotion à la très sainte Vierge Mère de Dieu. Il lui rendait continuellement des tributs, comme un esclave à sa maîtresse. À toutes les heures, un ave. À tous les jours, son office à trois leçons. Toutes les semaines, son rosaire. Tous les mois, l'office des morts à neuf leçons pour l'âme du purgatoire qui lui avait été la plus dévote. Et tous les ans, il jeûnait au pain et à l'eau la veille de ses fêtes. Les fêtes de la Sainte Vierge. Tous les samedis de l'année, il jeûnait aussi, ne buvant que de l'eau, pour obtenir la grâce de mourir ce jour-là, ce qui lui était accordé. La grâce de mourir ce jour-là, sous la très salutaire protection de la très sainte Vierge, comme effectivement, il est mort, un samedi. Bref, conclut le père Denis, il a vécu d'une manière si religieuse et si édifiante, au-dedans et au-dehors du cloître, que lorsque peu de temps après sa mort, le bruit des premiers miracles que Dieu a opérés par son intercession se répandit, le frère Didas étant connu dans tout le pays, chacun disait qu'il s'étonnerait plus qu'il ne faisait pas de miracles que de lui en voir faire. Ceux qui sont marqués dans ce recueil de procès-verbaux et miracles sont ceux dont les grands vicaires de Québec ont pu faire commodément les informations, car il y en a quantité d'autres dans le pays et dans les endroits où il n'aurait pu aller sans dépense et qui donnent lieu à toutes les personnes du Canada de le révérer comme un saint. Et ces lignes du père Joseph Denis sont contenues dans la lettre que, depuis la France, à Gisors, il adresse le 20 mai 1719 au père Donatien Larsenet, procureur général des religieux de Saint-François à Rome, qui doit présenter les susdits procès-verbaux à sa sainteté le pape. Dans le manuscrit des actes du frère Didas, cette lettre est en effet suivie de 9 procès-verbaux dressés par des grands vicaires de Monseigneur de Saint-Vallier, évêque de Québec, et relatant pas moins de 17 prodiges attribués aux serviteurs de Dieu. Alors, on peut dire que Monseigneur de Saint-Vallier, je vous l'avais signalé, se reconnaissant redevable au frère Didas d'une guérison qui lui était advenue, il a raconté les faits. Ce témoignage hautement autorisé, puis aux 19 procès-verbaux que je vous ai mentionnés, là, s'ajoute dans les actes plusieurs autres documents. On y trouve en tout 22 faits miraculés attribués au frère Didas Pelletier. C'est, je vous le rappelle, le frère Réal Prévost, franciscain, qui travaille à la béatification, à la cause du frère Didas Pelletier. Il recueille tout ce qui pourrait répondre aux exigences du postulateur général des franciscains. Alors, le père Bacon, supérieur ou gardien à Rosemont, dit « Nul doute qu'un nouveau miracle, dûment testé et certifié, serait de nature à faire progresser la cause du frère Didas. Quoi qu'il en soit, plusieurs chez les franciscains de la province Saint-Joseph du Canada continuent de prier le frère Didas Pelletier. On le fait aussi prier et on l'invoque volontiers à Sainte-Anne-de-Beaupré, où il est né, où, dit le père Bacon, j'ai revu récemment sa statue nichée près de l'angle ouest du mur latéral nord de la basilique. Il y a une statue aussi, paraît-il, je me souviens plus trop, où le frère Didas Pelletier pourrait bien, après tout, avoir davantage besoin d'intercesseurs et de croyants que d'historiens savamment documentés. J'aime bien cette réflexion. Il y a une réforme, dit-on, des franciscains qui est appuyée même par les franciscains bruns. Ce sont des franciscains gris qu'on appelle les Franciscan Friars of the Renewal. Ce sont dans l'État de New York. Mais il y a aussi deux franciscains québécois qui sont à Roxton Pond, je crois. Je ne sais pas s'ils sont revenus. Ils sont supposés revenir. Je vous signale ça en passant. Ces deux Québécois ont fait un stage parmi les franciscains de l'État de New York, du Bronx, qui vivent dans la pauvreté la plus abjecte, aidant les plus délaissés, les itinérants. Et ce sont des franciscains assez nombreux maintenant, ils sont peut-être une trentaine, et ils sont appuyés par les autres. Hein. Les franciscains bruns viennent leur faire des retraites, les reçoivent dans leur couvent au besoin. Il y a une entraide, une grande fraternité avec ces franciscains gris qui sont tout nouveaux. Bien-aimé frère Didas, je récite une vieille prière qui lui est adressée. Bien-aimé frère Didas, digne enfant du Canada et de Saint-François, vous que tant de témoins proclament, le consolateur des affligés, le guérisseur des malades et des infirmes, et le soutien des familles, ne refusez pas à vos frères qu'ils l'implorent avec confiance, votre intercession auprès de Dieu. Obtenez-nous d'accomplir toujours sa sainte volonté, et assistez-nous dans ces détresses, nos maladies et nos nécessités spirituelles et temporelles. Ainsi soit-il.